VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil et Anastasie Tudiesch, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du vendredi 5 février 2016. À la une ce soir.
Une base de l'ONU attaquée à Tombouctou dans le nord du Mali. Bilan, un militaire malien et 4 présumés djihadistes tués.
Ils sont en train de chercher à déloger encore ces gens-là. Mais pour le moment, il n'y a plus de tir. Mais l'armée est quand même sur ses positions.
Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Paul Kaba-Tieba fait sa déclaration de politique générale au Parlement.
L'institutionnalisation de la culture du résultat et de l'obligation de rendre compte sera un des principes fondateurs de mon gouvernement.
En plein cœur d'une crise qui a fait plusieurs centaines de morts et environ 300 000 réfugiés, le Burundi fête l'unité nationale.
Quand la charte de l'unité a été signée entre les Burundais, il y avait des problèmes de division. Mais de là à aujourd'hui, on a certainement fait un pas très important, même s'il y a eu des hauts et des bas.
Situation de catastrophe naturelle au Zimbabwe. La déclaration a été faite par le gouvernement à cause d'une grave sécheresse.
L'excision, un problème toujours actuel. Au moins 200 millions de filles et de femmes dans 30 pays ont subi ce phénomène, selon un nouveau rapport de l'UNICEF.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Attaque djihadiste ce vendredi contre un camp des troupes onusiennes à Tombouctou, dans le nord du Mali. Selon une source sécuritaire, un militaire malien et au moins 4 assaillants ont été tués. Les assaillants étaient venus à bord de 2 véhicules pick-up. Quelques-uns se seraient retranchés dans l'hôtel La Palmeraie de Tombouctou. Timothée Donomai a joint sur place notre confrère Mohamedou Askia de Radio Farouk.
L'hôtel est complètement encerclé. Et toute la zone est mise sous scellé. L'armée est de l'autre côté, ils sont en train de chercher à déloger encore les gens-là. Mais pour le moment, il n'y a plus de tir. Jusqu'à à peu près 30 minutes, quand je quittais, il n'y avait plus de tir. Mais l'armée est quand même sur ses positions.
Sait-on s'il y a des gens dans l'hôtel?
Ben oui, en fait, à la première explosion, il y a les femmes, les bellas qui occupent les petites cases qui sont aux alentours de l'hôtel. Donc, ayant pris peur, elles ont trouvé pour refuge l'intérieur de l'hôtel. En fait, c'était le mauvais calcul qu'elles ont dû faire. Les gens-là, quand ils ont été traqués, ils sont aussi rentrés dans l'hôtel. Donc, il y a des gens à l'intérieur de l'hôtel. Mais pour le moment, on ne sait pas de quel est leur sort ou à quel niveau ça se trouve, parce que l'armée interdit complètement l'accès à la zone.
Notre confrère Mohamedou Askia de Radio Farouk à Tombouctou.
Le Premier ministre burkinabé Paul Kaba-Tieba était devant les députés ce vendredi pour sa déclaration de politique générale.
L'institutionnalisation de la culture du résultat et de l'obligation de rendre compte sera un des principes fondateurs de mon gouvernement. En matière de lutte contre la fraude et la corruption dans l'administration, mon gouvernement, je l'ai dit, appliquera le principe de la tolérance zéro et rendra effective la déclaration de patrimoine des responsables administratifs. En outre, les dispositions seront prises pour assurer la formation adéquate des magistrats, mettre en place des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières.
Le Premier ministre burkinabé, Kaba-Tieba, nous reviendrons sur sa déclaration de politique générale au Parlement à Ouagadougou en seconde partie d'émission.
La commission de consolidation de la paix des Nations Unies se dit très préoccupée par les tensions politiques et institutionnelles en Guinée-Bissau. Écoutons le reportage de Noua Mankali.
Cette institution onusienne souligne que cette situation est très préoccupante en ce qu'elle risque d'être à l'origine d'une incertitude inutile dans le pays. La commission de consolidation de la paix des Nations Unies souligne que cette situation a causé un impact négatif sur le fonctionnement de l'État, y compris l'interruption des services sociaux à la population. La commission de la consolidation de la paix des Nations Unies encourage les autorités nationales à respecter les engagements pris à la table ronde de Bruxelles est d'assurer un environnement stable propice au décaissement des contributions des donateurs. En outre, la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies félicite la CEDEAO pour maintenir son engagement de haut niveau avec la Guinée-Bissau. La Commission recommande le réengagement de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo au nom de la CEDEAO à travers une visite à un moment approprié. Noua Mankali Bissau, VOA Afrique.
Le Zimbabwe est victime de la grave sécheresse qui touche l'Afrique australe. C'est déclaré aujourd'hui un état de catastrophe naturelle, une situation qui devrait s'aggraver à cause du phénomène climatique El Niño. Le point avec John Lendon.
Le Zimbabwe compte désormais 2,44 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, soit 26% de la population, a annoncé le ministre des gouvernements locaux et des travaux publics. 2015 a été l'année la plus sèche depuis un siècle. Les réservoirs d'eau sont à moitié vides dans le pays, où plus de 16 000 vaches sont déjà mortes et 75% des récoltes ont été ravagées, selon le ministre qui assure que le gouvernement va prendre des mesures sans donner de précision. Dans les zones rurales, les villageois, privés de leur alimentation de base, sont contraints de consommer des fruits sauvages ou de réduire leur nourriture. L'agriculture zimbabwéenne subit de plein fouet la sécheresse, alors qu'elle est déjà fragilisée depuis les années 2000 par la réforme agraire du président Mugabe. Ce dernier soutient de son côté que les sanctions imposées par les pays occidentaux ont aussi contribué à la baisse de la production agricole.
Les islamistes radicaux somaliens Shebab ont repris aujourd'hui le contrôle du port de Merka, à environ 100 km au sud de Mogadiscio. Le port qui était sous contrôle des forces gouvernementales et des troupes de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, depuis août 2012, avait été évacué par ces forces pour une raison encore inconnue. Les sources gouvernementales interrogées à Mogadiscio ont refusé de commenter la prise du port.
Effondrement dans une mine d'or en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga, au nord-est du pays.
Bravo.
75 mineurs ont pu être sauvés. Anastasie, 3 sont portés disparus. Les accidents graves se sont multipliés malheureusement ces dernières années dans les mines sud-africaines.
L'épidémie de fièvre de Lhasa, annoncée en début de semaine au nord de Cotonou, a désormais atteint Porto Novo, la capitale du Bénin. Un cas y a été signalé ce matin. Cette infection virale a été identifiée pour la première fois au Nigeria en 1969, dans la localité qui lui a donné son nom.
À Luanda, en Angola, une fédération d'organisations de lutte contre le sida va distribuer près de 500 000 préservatifs pendant le carnaval qui aura lieu du 6 au 9 février. On en fera bon usage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Du nouveau, dans l'affaire de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis juin 2012. Le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU a conclu qu'il est victime d'une détention arbitraire et qu'il doit immédiatement retrouver sa liberté de mouvement. Une suggestion que rejettent les autorités britanniques et suédoises. Explication avec Maëlys Hegel.
Lors d'une vidéoconférence de presse organisée par ses avocats, Julian Assange a salué la décision de l'ONU comme étant une victoire significative. Il a appelé le Royaume-Uni et la Suède à le laisser libre. L'avis du comité de l'ONU a été immédiatement rejeté par Londres et Stockholm. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, le juge ridicule et considère que le fondateur de Wikileaks est un fugitif. Soupçonné du viol d'une Suédoise, Julian Assange a été arrêté en 2010 à Londres. Réfugié en 2012 à l'ambassade d'Équateur, il clame son innocence et fait état d'un dossier monté de toutes pièces pour l'extrader vers les États-Unis. Assange pourrait en effet se voir reprocher la publication sur Wikileaks de 500 000 documents américains classés secret défense sur l'Irak et l'Afghanistan et 250 000 communications diplomatiques. En attendant que la situation s'éclaircisse, Julian Assange n'est toujours pas sorti de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Affaire à suivre.
Au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines blessées aujourd'hui par un incendie déclenché dans un hôtel d'Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. C'est ce qu'ont indiqué les responsables. Au moins 14 des personnes décédées étaient des étrangers, pour la plupart originaires des Philippines, a précisé à l'AFP un responsable du ministère de la Santé.
Plus de 120 combattants des forces rebelles et du régime ont été tués vendredi, aujourd'hui donc, dans de violents combats pour le contrôle d'une localité proche d'Alep, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, alors que l'armée poursuivait son offensive dans la province. Selon l'OSDH, cité par l'AFP, les rebelles ont repris aux forces gouvernementales plus de la moitié de la localité de Ratian dans ces violents combats qui ont fait environ 60 morts côté rebelles et 60 autres dans les rangs du régime.
L'Union européenne et l'OTAN sont prêtes à faire davantage pour soutenir un éventuel gouvernement d'unité en Libye où la menace djihadiste s'accentue, ont indiqué aujourd'hui les responsables à Amsterdam. La Libye, pays en proie au chaos actuellement, gouverné par deux gouvernements et parlements rivaux, était au cœur d'une réunion des ministres européens de la Défense ce vendredi à Amsterdam, réunion à laquelle a été convié le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
Le sénateur Bernie Sanders ne cesse de réduire l'écart avec sa concurrente Hillary Clinton dans la course aux primaires démocrates. Un sondage national le créditant vendredi, aujourd'hui donc, de 42% des voix contre 44% pour l'ancienne secrétaire d'État, ce à 4 jours du prochain vote. Le démocrate socialiste de 74 ans domine en revanche de 20 points l'ancienne première dame dans d'autres sondages pour le New Hampshire, voisin du Vermont dont il est sénateur et dont les électeurs doivent se prononcer mardi.
Bonne nouvelle pour l'économie américaine. Création d'emplois en janvier, 151 000. Un peu moins qu'avant, mais quand même, c'est une bonne masse salariale. Le taux de chômage a chuté à 4,9%. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
L'Union européenne a prolongé d'un an, soit le 31 janvier 2017, le gel des avoirs de l'ex-président tunisien Ben Ali et de son épouse Leïla Trabelsi. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le total de ces avoirs pourrait atteindre 9 milliards de dollars. La décision a été saluée par la société civile tunisienne qui continue d'espérer que cet argent puisse être rapatrié. Il s'agit d'un manque de volonté politique de l'État, selon eux. Bonne nouvelle en provenance du Sénégal. L'emploi salarié dans le secteur moderne a progressé de 3% en 2015, selon la direction de la prévision et des études économiques. Si le nombre des salariés du secondaire s'est replié de 2,3% pour la même période, la hausse de 8,9% dans le secteur du commerce est encourageante. Une pénurie de poissons d'eau douce en Côte d'Ivoire occasionne une flambée des prix de cette première source de protéines animales. Sur le principal marché de poissons au centre de Boaké, le taux de 3 carpes d'eau douce qui coûtait 1 000 francs CFA avant la pénurie en 2015 est revendu aujourd'hui à 2 000 francs CFA, soit une augmentation de 100%, a constaté l'agence APA. Réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans le cadre d'une journée interprofessionnelle, les banques et établissements de crédit d'Afrique se sont engagés à soutenir le développement pour mieux aider à la relance des économies.
C'était la Minute Éco. Merci Claire.
Les sports ce vendredi, c'est avec Timothée Donangma. Salut Tim.
Bonsoir Gabi.
Alors on commence par le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2016. C'est la pause au Rwanda avant le verdict de cette compétition.
Et oui Gabi, tout se jouera dimanche avec le choc Guinée-Côte d'Ivoire pour la 3e place et le duel RDC-Mali pour le trophée. Il faut dire Gabi que les deux finalistes ont avancé de justesse. Le Mali s'imposant par 1-0 face à la Côte d'Ivoire et la RDC ayant été plus à droite que la Guinée au tir au but.
Je n'ose pas faire le pronostic ayant à côté de moi Anastasie Tudiège.
C'est une bonne chose.
Voilà, mais je crois quand même que...
Mais non, pas de pronostic, on a dit.
Que le meilleur gagne.
Voilà.
Le meilleur
gagne.
Alors en marge du CHAN, on suit de près à Kigali la réunion de la Confédération africaine de foot qui pourrait avoir un grand impact, Tim, sur l'élection du président de la FIFA.
Tout à fait Gabi, avec 54 voix, la CAF constitue le plus important bloc électorale devant l'Europe, 53 voix, et l'Asie, 46. La CONCACAF comptant 35 voix, l'Océanie, 11, et l'Amérique du Sud, 10. 4 des 5 prétendants à la présidence de la Fédération internationale ont fait le déplacement de Kigali. Cheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa de Bahreïn, président de la Confédération asiatique de football, le Suisse Gianni Infantino, numéro 2 de l'UEFA, le Sud-Africain Tokyo Sexwale et le Français Jérôme Champagne.
L'unique absent parmi les candidats est le prince Ali de Jordanie.
Et oui, Gabi, ce dernier voit d'un mauvais œil l'accord de partenariat conclu le 15 janvier par la CAF et la Confédération asiatique. Une tentative de violer les règles électorales en faveur du patron de la Confédération asiatique, estime le prince Ali. Il n'en est rien, assure Issa Hayatou, président de la CAF et président intérimaire de la FIFA.
Ici aux États-Unis, l'événement sportif de l'année se jouera dimanche à San Francisco.
Et oui, il s'agit de la finale de la NFL, le championnat de football américain, ce cousin du rugby. C'est donc le Super Bowl. Les Broncos de Denver affronteront les Carolina Panthers. Les Panthers partent favoris, mais beaucoup de fans aimeraient voir Denver gagner à cause de son quarterback, Peyton Manning, qui pourrait jouer, Gabi, sa dernière finale.
Oui, Manning qui a éliminé mon équipe, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Merci, Tim.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est vendredi, ravi d'être en votre compagnie, Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour. Alors Anastasie, notre première escale ce soir, c'est le Burkina Faso.
Oui Gabi, le Burkina Faso où le tout premier ministre, le tout nouveau premier ministre, Kabatieba, devait présenter aujourd'hui au Parlement sa déclaration publique, sa déclaration de politique générale. Un exercice qui revêt une importance capitale, particulière, puisqu'un vote négatif des législateurs signifierait pratiquement la fin de ce gouvernement. Pour nous expliquer le processus et décrire la séance à Ouagadougou, nous avons en ligne notre correspondant Zoumana Wonogo. Bonsoir Zoum. Zoum ? Est-ce que Zoum est avec nous ? Zoum, vous êtes là ? Zoum une fois ?
Oui.
Zoum deux fois ? Oui, je sens qu'il est là.
Mais... apparemment, il n'est plus là. Donc,
il va revenir.
La régie va essayer de rattraper Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou, qui était au Parlement. Et nous nous rendons maintenant au Burundi pour dire que 25 ans après l'adoption de la Charte de l'Unité Nationale, malgré la persistance de la violence sur une base politique depuis avril 2015, qui a fait plus de 439 morts et presque 300 000 réfugiés selon les Nations Unies, l'État continue à fêter l'Unité Nationale. Le président de la République et plusieurs dignitaires étaient à Karuzi, au centre et au centre-est plus précisément du Burundi, tandis que le deuxième vice-président était au monument de l'unité avec le maire de la capitale et le ministre des Relations extérieures Alain Niamitwe. Notre correspondant Christophe Nziza était sur place, son reportage.
Le ministre de la Communication reconnaît qu'il y a eu des hauts et des bas ces 25 dernières années pour asseoir une unité véritable. Nestor Bangomukunzi.
Quand la charte de l'unité a été signée entre les Burundais, il y avait des problèmes de division, mais de là à aujourd'hui, on a certainement fait un pas très important, même si il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, l'unité est désormais une préoccupation de tout le monde. On ne peut pas avancer sans l'unité. Je dirais donc qu'on a fait un pas. Il y a des défis qui restent à relever, mais un pas important a été franchi.
Même constat pour le ministre des Relations extérieures, Alain Niamitwe, qui affirme que la charte de l'unité nationale est même plus importante que l'accord d'Arusha.
L'hymne et la charte restent d'actualité, 25 ans après. Il est vrai que deux ans après l'adoption de la charte de l'unité nationale, le Burundi a connu une crise la plus profonde de son histoire, mais une crise qui, à mon sens, n'a fait que confirmer la nécessité de l'unité nationale et qui est aujourd'hui encore et encore l'instrument supra-constitutionnel par excellence, au-delà même de l'accord d'Arusha, qui, comme vous le savez, s'est inspiré de la charte de l'unité nationale. Je crois donc que 25 ans plus tard, nous pouvons également projeter 25 ans plus loin, avoir un regard positif sur l'indispensable unité, toujours. Le Burundi, sans aucune des trois composantes, n'est plus un pays qui s'appelle Burundi. La nation burundaise est connue pour sa composition, notamment par les Hutus, par les Tutsis et par les Tois.
Cette célébration arrive au moment où la classe politique reste divisée sur le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza et des opposants qui clament qu'il est illégal et anticonstitutionnel. Une division qui a fait déjà des centaines de morts selon les Nations Unies. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au moins 200 millions de filles et de femmes dans 30 pays ont été excisées, la majorité avant leur cinquième anniversaire. Selon un rapport de l'UNICEF publié hier, la veille de la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. 85% des fillettes au Yémen subissent l'excision au cours de la première semaine de leur existence. En 2012, l'ONU a approuvé à l'unanimité une résolution demandant l'interdiction des mutilations génitales féminines. Nathalie Barge a joint à Bamako le docteur Younoussa Touré, socio-anthropologue, qui a écrit de nombreux ouvrages sur les mutilations génitales féminines.
Oui, je pense que les mentalités n'ont pas tout à fait évolué, ou peut-être qu'elles ne se sont pas, en tout cas jusque-là, adaptées au message, enfin, ne sont pas tout à fait réceptives au message qu'on leur envoie par rapport à ce phénomène de lutte contre l'excision. Je pense que c'est un peu plus ça. Qu'une situation d'évolution, c'est-à-dire que À mon avis, les jeunes ne sont pas tout à fait, dans certaines mesures, convaincus par les messages, parce qu'il y a des messages qui sont souvent contradictoires entre les différents intervenants de l'excision sur la contraception, sur la planification, etc. Et puis, bon, il y a d'autres qui trouvent un peu leur... et qui ont un langage contraire. Après, c'est ça, quoi. Donc, ce n'est pas que les mentalités n'ont pas évolué. Les mentalités ont évolué dans la mesure où les gens, de plus en plus, connaissent les méfaits, connaissent les dangers. Mais il y a juste deux phénomènes. On a voulu lutter du côté de la loi, on n'est pas allé trop loin. Du côté de la religion, on leur a dit dans une certaine étude qu'il n'est pas permis à un imam, quel que soit son niveau, d'interdire ce que le prophète, paix et salut sur lui, n'a pas interdit. Du côté des villageois, les chefs de village vous disent qu'une coutume, ils ne l'abolissent pas, puisque abolir une coutume dans un village, ils disent qu'il vaut mieux abandonner le village que d'abandonner la coutume. Alors si on veut s'adresser sur ces deux, et les exigences qui y trouvent leur pain, si on veut s'adresser sur ces aspects, sur ces facteurs-là, je pense qu'on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin et je pense qu'il y a un phénomène de recrudescence, certainement dû au fait que quand une lutte perdure, les gens ont plutôt l'impression qu'en fait, ce n'est pas tellement l'affaire des gens qui aient des solutions, mais c'est plutôt bon pour eux que la lutte dure.
Mais docteur, hormis tous ces facteurs, est-ce que la population n'est pas plus sensible à la souffrance de ces jeunes filles, de ces enfants? Parce que qui n'a pas vu des images d'une petite fille excisée, parfois en plein public, de voir sa souffrance morale et physique? Est-ce que cela, ça ne permet pas à certaines personnes quand même d'avancer un petit peu plus dans le sens de leur bien-être?
Oui, tout à fait. Mais vous savez, il y a des zones où l'excision s'est faite justement pour faire souffrir. C'est une épreuve d'endurance. Vous voyez bien? Donc c'est comme ça que dans certains contrées, on comprend. On pense que quand on va, l'excision, c'est un rite de passage. Un rite de passage exige vraiment quelques épreuves à passer. Et on pense que dans cette souffrance, c'est vraiment une sorte de bravoure pour montrer qu'on peut passer vraiment à la case supérieure. Il y a des endroits où on faisait monter les filles excisées immédiatement sur des chevaux pour voir encore juste leur niveau d'endurance.
On parlait justement d'excision avec...
Le docteur Younoussa Touré qui était joint à Bamako, au Mali.
Pas de plaisir sans danger. La transmission du virus Zika par la voie sexuelle est possible. Attention, pas de traitement ou de vaccin spécifique.
On travaille très très vite. Beaucoup de gens s'intéressent à cette question. Je pense que la plupart des gens qui travaillent là-dessus sont conscients des enjeux.
Retrouvons le docteur Amadou Sol dans Carrefour Sciences et Santé, ce chercheur sénégalais sur Zika samedi à 18h30 et dimanche à 20h30 en universel avec Eric Manilakis.
Et parlant de Zika, justement, l'Organisation des Nations Unies a demandé aux pays touchés par le virus, soupçonnés de provoquer des malformations congénitales, d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement. Pour en savoir plus, Isha Sarai a joint Cécile Pouilly, porte-parole de l'ONU.
Justement, pour que les mesures de santé publique qui ont été annoncées par les gouvernements concernés soient efficaces, eh bien, il faut prendre les droits des femmes en compte dans la gestion de cette crise. C'est indispensable. Les femmes sont au cœur de cette crise et donc leurs droits doivent être pleinement pris en compte.
Comment promouvoir la contraception et des avortements dans les pays catholiques qui ont des populations très religieuses comme en Amérique latine?
Je pense que ce qu'il faut, faire un pas en arrière et puis revenir à la réalité que vivent beaucoup de ces femmes dans ces pays et en premier lieu reconnaître que beaucoup de ces femmes n'ont pas le contrôle sur la date, les circonstances de leur grossesse, ne serait-ce que si l'on parle des nombreux cas de violences sexuelles dont sont victimes les femmes. Alors si je prends le cas du Salvador, on parle peut-être d'un quart des femmes qui auraient expérimenté des situations de violences sexuelles ou physique au cours de l'année passée. En Jamaïque, on parle aussi d'un cinquième des femmes concernées par ces violences. Donc, il est très important, quand on parle d'accès à la contraception ou d'accès à l'avortement, de prendre ces conditions extrêmement compliquées en compte.
Ce débat concernant l'accès aux contraceptions continue pendant des années, mais qu'est-ce qui a changé dans le contexte de Zika?
Je pense que lorsque les gouvernements de plusieurs de ces pays ont annoncé demander aux femmes de reporter leur grossesse, ça a déclenché, si vous voulez, un mouvement de réflexion sur la situation des femmes dans un certain nombre de ces pays. On se rend compte qu'en effet, elles n'ont pas la possibilité forcément de choisir quand est-ce qu'elles vont tomber enceintes, qu'elles n'ont pas forcément l'information disponible autour de la santé sexuelle et reproductive. Et donc, on fait peser sur leurs épaules, si vous voulez, un poids qui ne prend pas en compte l'environnement dans lequel elles évoluent. Donc, je pense que c'est très important de remettre ce cadre en perspective et de rappeler aux États qu'il est aussi de leur obligation d'offrir un accès qui soit facile, si vous voulez, et puis que puissent se permettre financièrement les gens à des soins de santé sexuelle et reproductive.
Jointe par Isha Sarai, Cécile Pouilly de l'ONU. Et comme promis, nous allons revenir à Ouagadougou, Anastasie Tudiech.
Avec notre correspondant Zoumana Wonogo. Zoum, est-ce que vous êtes là cette fois-ci? Zoum?
Oui, je suis
là. Ah, il est là.
Je croyais que vous étiez égaré dans les dédales du Parlement burkinabé. Alors, rapidement, Zoum, dites-nous, comment s'est passée la séance?
Comme j'étais premier ministre, j'allais être dans une position qui puisse pouvoir s'exciter tranquillement. Vous savez, déjà,
Oui, alors, la liaison n'est pas trop bonne et nous nous excusons auprès de nos auditeurs. Zoumana Wonogo, comment s'est déroulée la séance rapidement et qu'est-ce qu'on attend du vote des législateurs?
Voilà, déjà, pratiquement deux heures que le Premier ministre est en train de décliner sa politique de vente de développement du Burkina, mais ce n'est pas encore fini. Et globalement, il y a trois axes qu'il a retenus pour les 5 années. Il se base d'abord sur les réformes institutionnelles en faisant référence à Barack Obama, qui fait des institutions fortes pour le Burkina. Ensuite, il faut le renforcement des capacités humaines. Donc, le troisième point, c'est la transformation structurelle de l'économie avec les priorités pour le secteur privé. Bien sûr, il y en a eu beaucoup. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, quand il a planté le décor, il a démontré que l'héritage qui est vraiment très lourd, mais il ne veut pas pousser le décor dans la finestrée. Il faut qu'on retrouve sur les marches. Il faudra beaucoup de fiers, beaucoup de sacrifices parce que c'est un boulot de titan.
Zoumana, nous avons relevé un peu plus tôt l'importance de cette séance puisque le Parlement aura à prendre un vote de confiance après l'exposition du Premier ministre. Après l'exposé du Premier ministre.
Vu le statut du Parlement actuel, il y a visiblement pas mal qui se soit soulagé parce que le RPP du pouvoir de M. Kaboué a une majorité vraiment confortable avec toutes les alliances tissées. Donc, on peut absolument un peu se déclarer en disant qu'il n'y a aucun risque de voir que le Premier ministre, sa déclaration soit rejetée, donc qu'il soit forcé, donc obligé de démissionner. Visiblement, avec le statut, ça ne posera pas de problème.
Merci Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Non, c'est interdit de danser toute seule, Anastasie.
Ça, c'est un rappel à vos origines créoles.
Alors, c'est la fin de cette édition.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, Michel Joseph. Et à la présentation, Anastasie Tudiech, Gabi Dor. Et Gabi Dorsil à la console.
À la console, c'était Wagner Robert. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et sur voafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.